Pour ceux qui étaient là dans ce lieu depuis déjà 2 semaines, vous savez que on a commencé une série sur un héros, une personne extraordinaire, celui que j'appelle le dernier grand prophète de l'Ancien Testament, et pourtant on le trouve dans le Nouveau Testament. Son nom est Jean, et un petit rattrapage avec une petite bande-annonce pour ceux qui ont manqué le début. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Leur demanda-t-il. Un roseau agité çà et là par le vent? Mais qui êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, assurément, et même bien plus qu'un prophète. C'est moi qui vous le dis. Jean-Baptiste, le révolutionnaire. La révolution du sens de ta vie. La révolution d'un cœur transformé. Dernière. La révolution au prix de ta vie aujourd'hui. La révolution d'un royaume qui naît la semaine prochaine. Car c'est celui dont il est écrit, j'enverrai mon messager devant toi et il te préparera le chemin. Vraiment, je vous l'assure, parmi les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en parut aucun de plus grand que Jean-Baptiste, et pourtant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. Allez, on est dans l'évangile de Jean, chapitre 3 ce matin. La révolution au prix de ta vie. La révolution au prix de ta vie, c'est le message que j'aime le moins, parce que c'est le plus difficile, parce que c'est celui dans lequel on veut tous éviter de passer. C'est un moment où suivre Dieu, ça coûte. Et il y aura des moments dans ta vie où suivre Dieu, ça coûte. En fait, c'est une question de choix, choisir de plaire à Dieu plutôt qu'à soi-même, choisir de plaire à Dieu plutôt qu'aux autres, choisir de plaire à Dieu plutôt qu'aux puissants, choisir de plaire à Dieu même si ta vie s'arrêtait bientôt. Et c'est dans l'évangile de Jean où on voit ce premier aspect de Jean-Baptiste. En fait, c'est un passage assez choquant que ce passage où Jean-Baptiste va mourir. Il va partir dans la gloire, lui le dernier grand prophète, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et pourquoi, je me dis, mais pourquoi j'ai autant de mal, je trouve aussi choquant ce texte? Bah parce que profondément, on est dans un monde où le gentil gagne et le méchant doit perdre. Et inconsciemment, depuis qu'on est petit, depuis qu'on regarde un Walt Disney à la télé, avec mon fils, on regarde Le Roi Lion là, depuis 2 jours. Il y a des moments durs, mais le gentil finit toujours par gagner. Et c'est quelque chose de profondément ancré en nous. On se dit, depuis notre conversion, si jamais on aime Dieu, voilà, la vie sur la terre, Dieu est avec nous. Et quelque part, on idéalise tellement notre vie sur la terre et on doit gagner, forcément, elle sera plus belle. Mais dans ce cas-là, il faut revoir tout le système de valeurs parce qu'elle ne sera pas plus belle au sens de ce que tu entendais avant. C'est-à-dire qu'elle sera plus belle parce qu'elle sera beaucoup plus profonde avec Dieu. Mais lorsque je parlais juste avant de ce qui se passe en Érythrée, de ce qui se passe en Somalie, de ce qui se passe au Pakistan, nos frères chrétiens n'ont pas une vie plus belle parce qu'ils sont convertis. J'ai pas le droit de dire ça. J'ai juste pas le droit de le dire. Et Jean-Baptiste, finalement, est comme eux. Et donc, cette croyance profonde que le gentil doit gagner et le méchant doit perdre, ben, elle est mise à mal par ce texte de cette rencontre entre Hérode Antipas et Jean-Baptiste. Et puis, la deuxième chose profondément ancrée, c'est le tabou de la mort. Et là, je parle devant moi à des personnes qui vivent au 21e siècle. La mort est tabou. On n'est pas préparé à la mort. Quand vous regardez les sociétés avant nous, elles se préparaient à la mort. On avait une mortalité infantile qui était très forte. Nos anciens avaient une autre façon, une autre conception de la mort. C'était beaucoup plus présent presque dans leur quotidien. En un instant, une maladie pouvait emporter la famille. En un instant, vous pouviez perdre vos proches. Donc vous vous prépariez. Et quelque part, aujourd'hui, on veut tellement pas voir la mort qu'on crée des systèmes plus ou moins efficaces. On crée des maisons de retraite parce que quand on voit nos parents qui deviennent très âgés, on a du mal à affronter l'idée qu'on va les perdre. Et des fois, c'est difficile de porter les personnes jusqu'au bout. Alors, on préfère quelque part ne pas penser à la mort. Ça nous évite de trop réfléchir. Mais en fait, Dieu n'a pas peur de la mort. Nous, on a peur parce que quelque part, c'est encore quelque chose que Jean-Baptiste va nous apprendre. Je ne pense pas que Jean-Baptiste avait peur de la mort. Mais dans notre société occidentale aujourd'hui, on a vraiment peur. C'est un tabou. On n'en parle pas. Alors que la mort, c'est juste un passage, en fait. Et c'est important que je le dise en guise d'introduction, parce que sinon, hein, c'est trop choquant. Et je me suis rendu compte que ces deux croyances, là, cette idée que le gentil gagne toujours et puis que la mort, c'est forcément un échec, ben, ces deux croyances font qu'on ne peut pas supporter ce passage. Et Dieu veut nous enseigner quelque chose d'autre. Premier point, la mort à soi-même, lorsque ton intégrité vaut plus que ta réussite. Je l'avais un peu abordé la semaine dernière, je vais juste reprendre Jean 3 et on va écouter ce que la Bible nous dit. Après cela, Jésus se rendit en Judée avec ses disciples. Il resta quelque temps avec eux et il y baptisait. Jean, de son côté, baptisait à Énon, près de Salim. Il y avait beaucoup d'eau et de nombreuses personnes venaient pour être baptisées. C'était encore la période de gloire hein, pour Jean, où son ministère, ça marchait à fond. Les campagnes d'évangélisation, c'était du tonnerre. En effet, à cette époque, Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, un jour, quelques-uns de ses disciples eurent une discussion avec un juif au sujet de la purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent: Maître, tu te souviens de cet homme-là qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et pour qui tu as témoigné? Eh bien, le voilà qui baptise à son tour et tout le monde se rend auprès de lui. Seigneur, tu ne trouves pas énervant que ce soit l'église d'à côté qui grandisse plus que la nôtre? C'est très humain, très très humain. Seigneur, comment ça se fait que celle-là, alors qu'elle a pas fait tout ce que j'ai fait à la louange, elle passe plus souvent que moi? Seigneur, est-ce que tu penses que c'est normal que cette voisine, alors qu'elle n'est pas sérieuse, eh ben, elle a cette promotion, etc. On a énormément de mal à accepter que les autres réussissent mieux que nous. Et Jean répondit: Nul ne peut s'attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue de Dieu. Waouh! Waouh, vous en êtes vous-même témoin. J'ai toujours dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été comme son précurseur, comme son messager. À qui appartient la mariée? C'est tellement bon que ça devrait être vraiment le texte de base de tous les pasteurs sur la terre. À qui appartient la mariée? Au marié. Mais quant à l'ami du marié, il parle de lui, Jean. C'est celui qui se tient à côté de lui, qui l'écoute, entend sa voix, le remplit de joie. Telle est ma joie et à présent elle est complète. Lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. La mort à soi-même. Pour moi, dans la vie de Jean, là, dans cette étape, troisième étape de la vie de Jean, qui est l'étape quelque part de la mort, il y a trois types de mort. Il y a la mort à soi-même, c'est ce qu'on va voir d'abord. Ensuite, il va mourir à sa liberté. Et enfin, il va mourir physiquement. Donc c'est trois passages difficiles. Le premier passage, le passage de la mort à soi-même. Est-ce que pour toi, tu es allé jusque-là? Parce que c'est vraiment ça le baptême. C'est vraiment ça le baptême. Le baptême, c'est dire, il doit devenir plus grand et moi, je dois devenir plus petit. Si vous avez pris votre baptême et que vous étiez sincère le jour de votre baptême, c'est ce que vous avez dit. Seigneur, je veux que tu grandisses et que je diminue. Ça veut dire que dans certains de mes choix, je préférais la réussite selon Dieu à la réussite selon moi. Le moi meurt quelque part. Il reste au fond de la baignoire, il reste au fond du baptistère, il reste au fond du jacuzzi, ça dépend qui vous baptise, mais ou de la piscine ou du fleuve, mais il reste au fond dans le sens que c'est difficile, il veut ressusciter beaucoup d'ailleurs. Faut le replonger souvent, mais c'est la mort à soi-même. C'est la mort à soi-même. Là, c'est un témoin qui s'efface, mais en fait, lui, je pense que Jean-Baptiste le vit finalement assez bien parce qu'il Il dit, le marié, c'est pas moi. Moi, je suis l'ami de la mariée et je me réjouis. Parce qu'il a fait un choix profond depuis le début et il est exactement confortablement installé dans ce qu'il sait être son appel. Voilà la clé du succès. Pour comment supporter la mort à soi-même, c'est être confortable avec ce que Dieu te demande. Et c'est là le hic. Parce que des fois, vous êtes en combat permanent pour essayer de dire à Dieu, je suis pas content de ma vie. Et donc, du coup, si tu n'es pas content de ta vie, tu as du mal à te réjouir de celle des autres. C'est pour ça que Dieu veut vraiment, comme Jean, pouvoir avoir avec toi une communion telle et te parler comme il a parlé à Jean. Il dit, Jean, tu es mon messager. C'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que j'ai un projet pour ta vie, mais c'est pas toi le Messie. Mauvaise nouvelle. Il y a quelqu'un qui va réussir plus que toi et tu vas devoir, dès le début, tu es préparé, programmé pour t'effacer, pour que lui grandisse. Si Jean n'accepte pas cette idée-là, il va se confronter à Dieu. Et c'est merveilleux parce que c'est vraiment pour moi un très, 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 très grand prophète, Jean. Il est vraiment l'Élie qui devait venir dans le sens qu'il se retire, mais même plus que tous les autres. Moi, j'ai pas vu, je vous le disais, j'ai pas vu dans la personnalité d'Élisée qui lorsqu'il est confronté à des jeunes et qui lui disent monte chauve, etc., il fait descendre le feu, il utilise la puissance de Dieu contre ses ennemis. Là, c'est pas du tout la mentalité de Jean. Jean, il est très confortable avec qui il est, chauve ou pas, ça change rien. On a tous des handicaps que l'on cache quelque part. C'est très important d'être à l'aise avec ce que Dieu a fait et fait de ta vie. Alors, je parle à quelqu'un, peut-être une femme, qui est en train de se dire, mais ma vie, c'est pas ce que je veux, etc. Fais attention. Fais attention parce que, à force de dire du mal de cela, tu vas finir par blesser quelque part le Saint-Esprit. Je pense que Jean, il dit, moi, je suis heureux, je me réjouis de ce que c'est pas moi qui suis sous les projecteurs, de ce que celui qui vient après moi est plus grand que moi. Mourir à soi-même. Ça commence un peu haut ce matin. Il n'y a aucun amen, mais c'est normal. La chair, elle est encore bien vivante. Elle interdit les amen. Bon, ben, on passe alors. On va faire comme si vous étiez mort à vous-même. Deuxième aspect. Mort à ses rêves, mort à sa liberté. Deuxième point. Et là, j'ai marqué moi comme sous-titre, lorsque ton intégrité vaut plus que ta liberté. Lorsque ton intégrité vaut plus que ta liberté. C'est dans Marc 6, dans l'évangile de Marc au chapitre 6, juste les versets 17 à 20. Vous vous rappelez la semaine dernière quand je parlais de la révolution du cœur, comment Jean avait été courageux pour dire aux pharisiens en tête à tête, face à face. Il les a vus arriver avec leurs beaux habits, là, à faire les malins et à vouloir changer que l'extérieur sans changer l'intérieur. Il les a regardés, il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu qui vient? Bon, ben, quand vous faites ça, vous n'êtes pas populaire. Hein. Enfin, je veux dire, surtout vous faites des ennemis sérieux. Hein. Vous faites des ennemis sérieux qui, parfois, le retiennent. Et il est dit qu'il y avait des pharisiens, mais des sadducéens. Les sadducéens, pour ceux qui connaissent un tout petit peu leur Bible, les sadducéens et les pharisiens ne s'aimaient pas du tout. Ils étaient d'accord pour être contre Jésus, mais c'était le seul point où ils étaient d'accord. Parce que les sadducéens, c'était des prêtres qui étaient en fait des prêtres collabos avec l'État romain, pour faire simple. C'est-à-dire que ils avaient les postes de pouvoir, les sadducéens, mais ils appartenaient à l'ordre politique. C'est-à-dire qu'ils étaient du parti de Hérode. Ils étaient placés et Hérode lui-même était le roi, donc il y avait un mélange entre. En gros, c'était l'église d'État. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous savez qu'en Chine, par exemple, aujourd'hui, il y a deux églises protestantes, deux églises, deux types d'églises même protestantes évangéliques. Il y a ceux qui sont placés et nommés par l'État, et il y a ceux qui sont l'église souterraine. C'est pareil pour l'église catholique en Chine. Il y a deux églises catholiques. Il y a l'église d'État officielle, celle qui est reconnue par l'État chinois, et il y a celle qui est libre. Et qui souvent doit se cacher pour être libre. Et donc les sadducéens, c'était les prêtres officiels. Ils appartenaient souvent à la haute bourgeoisie, donc la famille d'Hérode. Et voilà que, au verset 17, en effet, Hérode avait fait arrêter Jean, il avait fait enchaîner et jeter en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère, qu'il avait épousée. Car Jean disait à Hérode, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade, furieuse contre lui, cherchait à le faire mourir, mais elle n'y parvenait pas. Furieuse, furieuse. En fait, vous savez, dans cette mentalité très dépravée, avec beaucoup de débauche dans la cour du roi Hérode, c'était un milieu vraiment très très sale, très très sale. Et donc, il y avait deux frères, des demi-frères d'ailleurs, il y avait Philippe. Vous connaissez Hérode le Grand? Hérode le Grand, c'est celui qui avait mis à mort les enfants quand il avait entendu parler de la naissance de Jésus par les mages. Et Hérode le Grand est mort en l'an. On pense qu'il est mort vers l'an moins 4. Et quand Hérode le Grand, il avait encore un titre de vrai roi sur la Judée. Il était assez puissant, Hérode le Grand. C'est pour ça qu'on l'appelait Hérode le Grand. Puis après, son royaume s'est partagé entre ses fils. Et parmi ses fils, il y avait un qui s'appelait Philippe. Et il y en a un autre qui s'appelle, celui que l'on voit, Antipas. Et Hérode Antipas, c'est celui dont il est fait mention aujourd'hui, était le gouverneur. Il avait un peu perdu le titre de roi, on l'appelait gouverneur sur les provinces de Galilée, provinces romaines de Galilée et de Pérée. Et donc, ce gouverneur, qui était Hérode, avait profité du fait que son frère Philippe fasse un voyage à Rome parce qu'ils étaient régulièrement convoqués pour piquer sa femme. Donc il avait piqué Hérodiade, qui avait choisi donc de suivre Hérode Antipas plutôt que le frère Philippe. Et Jean a dit, c'est pas possible. Je ne peux pas cautionner ça. C'est une faute, c'est un péché que de prendre la femme de ton frère. C'est étonnant parce que c'est Hérodiade qui était furieuse. C'était Hérodiade. Je ne maîtrise pas toute la psychologie. On n'a pas assez de descriptif de quel était le caractère de cette femme. On va le comprendre un peu plus tard, combien elle était vraiment machiavélique. Mais elle cherchait à le faire mourir. C'est bizarre d'ailleurs parce qu'au verset 20, il est dit « Hérode craignait Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint. Il le protégeait donc. Quand il l'entendait parler, il en restait fort perplexe et pourtant, il aimait l'entendre. » Très bizarre ce Hérode Antipas. Il était à la fois admiratif de ce que Jean était, tout ce qu'il n'était pas, intègre. Il trouvait très très beau cette capacité de Jean à assumer des positions contre tout le monde. Moi j'ai vécu ça aussi à peu plus petite échelle lorsqu'au lycée, j'ai dû tenir des positions contre tout le monde. Pour tous ceux qui ont des enfants, sachez que vos enfants vivent ça tous les jours dans certains lycées, dans certaines facs. Tous les jours, ils doivent mouiller la chemise, mouiller le maillot pour dire qu'ils ne croient pas, qu'ils ne sont pas dans la tendance. C'est vraiment épuisant, hein. Vraiment épuisant. Chaque fois que tu élèves la bouche, tu es en décalage. Vous, par rapport à vous qui êtes entouré et qui êtes beaucoup dans une équipe avec vos collègues, vous pouvez vivre ça aussi. Oui, mais l'adultère, hein, c'est super, elle l'aime, etc. Non, je trouve pas que ça soit bien, c'est pas une bonne chose. Ouais, mais rabat-joie, arrête tes problèmes, tout. Tu t'amuses jamais. Tu prends une position de société, tu dis, moi, l'avortement, non, je suis. Quoi et tout, mais espèce de réac, tu viens d'où? C'est des droits, ça. Après, tu dis, moi, deux hommes qui couchent ensemble, je pense pas que ça vienne. Quoi? Ah là 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 là! Eh là, tu parles d'amour. Ah bah dis donc, t'es complètement fermé. Bah. Et à chaque fois, t'es en décalage et tu dois porter des positions, mais c'est usant. Moi, j'ai eu en entretien quelqu'un qui, et ça m'a fait bizarre, parce que c'est quelqu'un qui m'a dit, mais il y a un moment, j'ai craqué, quoi. Et ce jeune, il était en feu dans son lycée pendant longtemps, et puis tout d'un coup, plom, il s'est, mais presque. Il s'est presque déconverti volontairement, quoi. C'est-à-dire qu'il a dit, Dieu, j'arrête d'être différent. J'arrête de porter la croix quelque part. J'arrête d'assumer ces positions-là. Et je préfère la liberté à l'intégrité. En fait, chacun d'entre vous, vous allez devoir choisir entre des fois l'intégrité et la liberté. Ce monde raffole la liberté, fais ce que tu veux. C'est vraiment un slogan quand même. Quand vous voyez, c'est profite, vas-y, fais, saisis la vie, carpe diem, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Et il y a un moment où Dieu te dit, fais pas ça. Donc tu ne veux pas à la fois faire plaisir à Dieu et à ta chair et à ce qui en toi veut faire ce que tu veux. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un parmi les disciples de Jean qui devait beaucoup aimer d'ailleurs ce grand prédicateur et qui a dû lui dire, Jean, franchement, je pense que tu en as fait assez, juste tais-toi. continue à dire, pour les Sadducéens, les pharisiens si tu veux, mais va pas te fâcher avec le roi quand même. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Mettez-vous à la place deux secondes. Honnêtement, c'est quand même à ce moment-là facile de prendre son petit drapeau et de le cacher dans sa poche. Et Jean va choisir l'intégrité à la liberté. Il sait très bien que s'il dit au gouverneur, au roi gouverneur, tu couches avec la femme de ton frère, tu es en péché devant Dieu, Dieu ne cautionne pas cela, il va être embarqué. Il va être embarqué. Les CRS sont là, ils l'attendent. C'est son dernier jour à prêcher. Puis on se dit, mais si jamais je suis embarqué, ça veut dire que je ne vais plus pouvoir baptiser. Alors vous savez, vous allez tous avoir des petites excuses pour vous dire de cacher votre drapeau. Du genre, ah mais vaut mieux que je dise rien à Hérode Antipas, parce que comme ça, ça va me permettre de continuer à bosser pour Dieu. En ne disant pas la parole de Dieu, je vais quand même continuer à bosser pour Dieu. Mais tu ne peux pas bosser pour Dieu si tu ne respectes pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas bosser pour Dieu si tu ne respectes pas sa parole. Et Jean dit, je préfère l'intégrité. Je préfère être embarqué, emprisonné, perdre ma liberté. Je vais être concret pour certains d'entre vous. Vous faites des rêves aussi. J'ai intitulé ce thème « La mort à ses rêves ». Vous faites des rêves. Et vos rêves, des fois, ils sont bizarres parce que c'est votre inconscient. Est-ce que dans votre rêve, ça vous est jamais arrivé qu'on vous propose une belle somme d'argent, mais avec des mauvais moyens ? Ça peut arriver, hein ? Parce qu'en fait, peut-être vous avez vécu une situation proche au travail où en faisant une petite embrouille, presque pas visible, vous pouviez avoir une promotion ou plus d'argent. Peut-être pour certains, allez, je vais parler pour une femme. Tu rêves que ça t'est arrivé une fois, tu es marié, bon, tu l'as beaucoup aimé ton mari, au début, aujourd'hui tu le supportes autant que tu l'aimes, et il y a un collègue au travail qui est tout ce que ton mari n'est pas. Attentionné, il te valorise, tu comptes pour lui. Enfin, c'est pas quelqu'un qui, à chaque fois que tu changes un tout petit truc dans ta coiffure, il le voit. Tu vois, ton mari, lui, il s'en fout. Tu changes de couleur de crayon maquillage, il le voit. Ah, dis donc, ça te va bien. T'arrives à la maison, le chéri, il a rien vu. Chéri, tu vois pas quelque chose? Non. Ben, je suis passé chez le coiffeur. Ah ouais, ça te va bien. Et du coup, il peut arriver que ton inconscient te fasse faire un rêve. Où t'as ce beau gars là qui dit, écoute, toi tu comptes pour moi, t'es ma chérie. Tu viens, tu plaques tout. Tu viens, on part. J'ai décidé que la parole de Dieu vaut plus que mes émotions. Est-ce que tu as décidé que la parole de Dieu vaut plus que tes émotions? Que ton intégrité vaut plus que ta liberté? Oui, tu peux partir avec cet homme. Oui, tu peux partir avec ta collègue qui est tout ce que ta femme n'est pas. Tu peux le faire. Si tu choisis que ta liberté est plus importante que ton intégrité, tu peux le faire. Tu peux le faire. Et le Saint-Esprit à l'intérieur de toi meurt d'un choix pareil. Vous savez, c'est pas que de la frustration. Je crois que il faut que ça soit, pour combattre une passion, il faut une passion. Pour ceux qui, vous savez, le monde parle du flash, du grand amour et tout ça, et c'est très très dangereux parce que c'est très fort. Enfin, ça peut être très beau aussi. Mais la Bible dit « Sois enivré des charmes de la femme de ta jeunesse ». Il ne dit pas de la nouvelle collègue. Et du coup, il faut que tu demandes à Dieu « Seigneur, renouvelle-moi ma passion pour toi. comme Jean-Baptiste avait une passion pour la parole de Dieu, pour être capable de dire, je préfère dire Dieu a raison et mes sentiments ont tort. Tous mes sentiments disent, tais-toi, ne dis pas à Hérode qu'il pêche, fais un compromis. Mais ma passion, mon cœur est pour la parole de Dieu et elle prévaut sur ce que je ressens. Plus ils sont anciens, plus ils disent amen. Vous les jeunes, c'est pour vous, relevez le défi parce que Madame Mango, elle a déjà pris position. À vous maintenant. À vous maintenant. À vous maintenant. À notre génération de se lever. À toi qui a 20 ans, à toi qui a 30 ans, à toi qui a 40 ans, à toi qui a 50 ans. Lève. Reprends ce que les anciens ont fait. C'est pas facile parce que c'est là que t'es tenté. C'est là où David a chancelé. C'est là où des héros sont tombés. Positionnement, c'est tous les jours. Il y a eu un moment dans sa prison où Jean-Baptiste a failli lâcher. Et ça, c'est important aussi de le dire parce que ça serait trop simple de dire que lui, c'est un héros, c'est un surhomme. Moi, je ne peux pas être à la hauteur. On va juste lire ce qui s'est passé un jour où ça a été chaud pour Jean. Ça a été vraiment difficile. C'est dans Luc 7. Luc 7. Il a failli craquer un moment. Il a failli craquer parce que il y a quelque chose de très dangereux à te retrouver seul pendant longtemps. C'est que tu tournes en boucle. Et le pauvre Jean dans sa prison, avec ses barreaux et puis ses quelques morceaux de pain, un peu d'eau de temps en temps, il devait se dire, mais ça me manque tellement de baptiser les gens. Ça me manque tellement la réunion d'évangélisation, il y avait la foule qui venait. Ça me manque tellement le culte où il y avait une présence de Dieu incroyable. Ça me manque tellement. Et puis, au bout d'un moment, il se décale, il ne voit plus l'action de Dieu. Et il envoie deux personnes. Jean fut informé par ses disciples, c'est dans le verset 18 de Luc 17, de tout ce qui se passait. Il appela deux d'entre eux, il les envoya auprès du Seigneur pour le demander. Il parle à Jésus, il lui dit, es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Il a un doute. Il a un doute. Ces hommes se présentèrent à Jésus et lui dirent, c'est Jean-Baptiste qui nous envoie, voici ce qu'il te fait demander. Es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Or, au moment où il arrivait, Jésus guérit plusieurs personnes de diverses maladies, infirmités. Il délivra des gens qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais et rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il répondit alors aux envoyés de Jean. Dis-lui que c'est un incrédule. Non. Dis-lui que c'est un mauvais croyant. Non. Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les paralysés marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Voilà, je suis désolé, mais dans les moments où vous n'allez pas bien, ce n'est pas de la morale que vous avez besoin. Ce n'est pas de la morale. C'est pas de la morale. C'est pour ça que des fois, c'est très dangereux parce que quand on est seul, il peut arriver qu'on aille dans une église, que tu n'as pas envie d'aller à l'église, tu fais l'effort d'aller à l'église. Si le prédicateur ce matin-là fait de la morale au lieu de prêcher la puissance, tu repars, tu aurais mieux fait de ne pas y aller presque. C'est vrai, hein, c'est dur. Hein, parce que tu te dis, oh là là, juste je suis une mauvaise chrétienne en plus. Et moi, en tant que pasteur, je dois veiller à ça toujours. À ce soit l'esprit de Dieu, la gloire de Dieu que je prêche, pas une morale. Et il a eu raison parce que c'est extraordinaire la réponse de Jésus. Jésus ne fait pas un gros commentaire, une prédication. Il dit simplement, Lucienne, là, elle vient de jeter ses béquilles. Mathieu, il vient d'être guéri. Tiens, regarde les deux là. Hein, ils étaient paralysés. Regarde, va toucher leurs jambes. Regarde. T'as vu, ils courent, ils sont en train de faire un 100 mètres là. Tu vas dire à Jean. La bonne nouvelle est annoncée à ceux qui n'y avaient pas accès, aux pauvres. Jésus rajoute, heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Des fois, c'est dur, hein, parce que dès qu'on est seul, isolé, et je pense que particulièrement pour Jean, parce qu'il devait être, depuis le ventre de sa mère, il devait avoir le même âge que Jésus. C'est facile quand on est un papy de se réjouir pour les jeunes qui réussissent. Mais quand tu es un jeune et que tu te réjouis pour ton collègue qui a le même âge que toi, parce qu'ils avaient le même âge, excusez-moi, hein. Au pire, il y avait 8 mois de décalage. Ils avaient le même âge. Donc si Jésus a entre 30 et 35 ans, Jean à 30-35 ans est en train de croupir au fond d'une prison. Et là, tous ceux qui ont plus de 30, 35 ans sont en train de se dire waouh! Ouais, c'est ça que ça veut dire. Le doute s'installe et si, il y a des choses qui tournent en boucle. Moi, je te dis, si les choses tournent en boucle dans ta tête, va parler à Jésus et demande à Dieu, non pas un message que tu écoutes juste sur Internet comme ça. Rends-toi dans une église, participe à quelque chose où ta foi est nourrie. Où ta foi est nourrie. Va dans la rue, parle à des inconvertis. Enfin, c'est un peu choquant ce que je dis, hein. C'est quand tu vas pas bien qu'il faut que tu vois la gloire de Dieu. Que tu vois la gloire de Dieu. C'est là où faut, c'est très important de prier plus que jamais pour que le malade soit guéri. Parce qu'on a besoin de cela et c'est ce que. Et Dieu le fait. Presque Jésus avait anticipé que les envoyés de Jean arrivaient et s'est dit, on va faire un carnage de bénédictions aujourd'hui. Parce que Jean en a besoin. Parce qu'il y a quelqu'un au fond de sa prison et il faut lui raconter combien, oui, Dieu est puissant aujourd'hui. Jean n'avait plus vu de miracle ni entendu de miracle depuis longtemps. Il était coupé, isolé. Il est temps, sors, ou si tu ne peux pas sortir toi-même, envoie quelqu'un, mais il faut que tu entendes du miracle. Il faut que tu entendes la puissance de Dieu. On ne peut pas se limiter à un évangile de dire, oh là là, faut tenir, faut tenir, faut tenir, faut tenir. C'est l'équilibre par rapport à mon message. Je dis, oui, il faut tenir, il faut s'accrocher, etc. Mais il faut aussi participer. Et c'est ton rôle, un jour, de sortir de ton trou ou d'envoyer quelqu'un. Mais il faut bouger pour entendre et participer à la gloire de Dieu. Parce que tu ne peux pas toujours lutter en disant, ça, j'ai pas le droit, ça, j'ai pas le droit, ça, j'ai pas le droit. Et à un moment, il faut que tu vois la gloire de Dieu. Faut que tu vois. Moi, je bénis Dieu pour cette église parce que j'ai tellement été dans des églises où on avait fait des projets immobiliers qui aboutissaient à rien. Oh, ça me fait du bien à chaque fois que je raconte l'histoire. Ça me fait du bien. Et quand je me dis, waouh, c'est possible pour demain. Et je vois les frangins, les pasteurs qui me disent, ah, il y a toujours, on a toujours un peu de la concurrence, de la jalousie idiote et tout ça, mais il y a quand même de la joie à se dire, ah, ça marche. Quand j'ai vu ce qui s'est passé à Cergy, la belle église qu'ils ont à Cergy, je dis, waouh! Fait du bien. Il faut partager aussi le miracle que Dieu fait. Hein. On en a besoin de voir ça. Allez, dernier point. Lorsque ton intégrité peut te coûter ta vie sur la terre, c'est le dernier aspect. Après, vous n'aurez plus besoin de dire Amen du tout. On aura fini. Mais en Marc 6, au verset 21, c'est ça qui n'est pas passé trop bien chez moi. Hein. Ça a eu du mal à passer, ce passage-là. Clairement, ce n'est pas mon préféré du Nouveau Testament. Au verset 19, on a vu qu'Hérodiade était furieuse contre lui. Et puis au verset 21 de Marc 6, il est dit: Un jour cependant, Hérodiade trouva une occasion favorable lors de l'anniversaire d'Hérode. Celle-ci organisa un jour une grande fête à laquelle il invita les hauts dignitaires de sa cour et des officiers supérieurs, les notables de Galilée. Au cours du banquet, la fille d'Hérodiade entra dans la salle. Elle dansa. Hérode et ses invités étaient sous son charme. Et le roi dit alors à la jeune fille: Demande-moi ce que tu voudrais, je te le donnerai. Il alla même jusqu'à lui faire ce serment: Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. Ah, il n'a déjà pas grand-chose, mais bon, c'est pas grave. Elle sortit pour prendre conseil auprès de sa mère. Que vais-je lui demander? La tête de Jean-Baptiste, lui répondit celle-ci. Aussitôt, la jeune fille se hâta de retourner auprès du roi pour lui exprimer son vœu en ces termes. Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi en fut consterné, mais à cause de son serment et de ses invités, il ne voulut pas le lui refuser. Il envoya donc aussitôt un garde en lui en donnant de rapporter la tête de Jean. Celui-ci s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat et la remit à la jeune fille. Et celle-ci la donna à sa mère. Lorsque les disciples de Jean apprirent ce qui s'était passé, ils vinrent prendre son corps pour l'ensevelir dans un tombeau. Waouh! Moi, je lui dis, Seigneur, est-ce que c'est gratuit? C'est ça qui m'a un peu troublé, vous voyez? Des fois, on se demande. Est-ce que la souffrance est gratuite? Parce que franchement, quelle était la probabilité que Jean soit décapité ce jour-là? Mais aucune, normalement. Six jours de fête, un jour de banquet. Hérode, ce n'était pas du tout un jour où Hérode était fâché contre Jean. Donc vous voyez, c'est ça qui est étonnant, c'est que celui qui semble être l'ennemi que tu as en face de toi, Hérode, en fait, c'est pas lui le vrai ennemi. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles derrière ces Hérodiades. Est-ce que tu te rends compte que derrière beaucoup de tes problèmes, celui qui est ton ennemi officiel, il y a un ennemi non officiel. Et que derrière, il y a quelque chose de démoniaque qui tire les ficelles pour essayer de te déstabiliser très fortement. Et c'était ce qu'était en train de faire Hérodiade. Et je me dis, mais Seigneur, comment tu peux laisser cela se faire? C'est choquant, hein, on a du mal. Puis j'ai un petit peu négocié avec Dieu. Je dis, Seigneur, c'est aléatoire, c'était juste un. Et moi, je pense qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. C'est vrai, soit on a une vision vraiment centrée sur la terre et centrée sur notre vie sur la terre, et on dit c'est un échec terrible cette histoire. Quelle souffrance, c'est vraiment horrible. Et l'autre possibilité, c'est de dire, Seigneur, y a-t-il un sens à cela que Jean ne perçoit pas forcément à ce moment-là, mais que toi tu donnes? Alors j'ai quelques pistes et je prétends pas avoir tout expliqué parce que je serais très orgueilleux si je disais pouvoir comprendre ce texte-là. Mais il y a quelques pistes. Tout d'abord, je pense que Jean, dans sa prison, n'allait jamais, jamais renoncer à la parole de Dieu. C'était du béton armé, le papa Jean. Et quand, même sous la torture, je suppose qu'il a dû en souffrir, il a jamais dit à Hérode, c'est pas grave, tu peux prendre cette femme. Et il ne l'aurait jamais dit, ok? Ça veut dire que toute sa vie, Jean aurait moisi en prison. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, je sais que pour nous les jeunes, c'est difficile à comprendre. Mais peut-être les anciens le comprennent. Il y a un moment où je pense que Dieu a dit, Jean, écoute, t'as suffisamment galéré pour tout ça. Allez, viens là-haut. J'ai une place pour ceux qui sont les martyrs de la foi. Et je pense que Jean n'avait pas d'espoir sur la terre, humainement. Et que Dieu. Parce que le plan de Dieu, ce n'était pas d'enlever Hérode. Parce que si Dieu enlevait Hérode, il enlevait ce qui se passait avec Jésus. Vous comprenez? Tout était lié. Si Dieu sauvait. Enfin, si Dieu changeait le cœur d'Hérode, dans ce cas-là, Jésus n'avait plus besoin de mourir à la croix. Et en fait, Dieu ne changeait pas Hérode. Hérode était prévu par Dieu. Et bizarrement, dans toute la complexité de tout ça. Je reconnais une chose, c'est que Dieu presque a dit à Jean, allez, ce soir, c'est ton soir, tu rentres là-haut. La deuxième explication, c'est que Jean, Jésus a dit, c'est le plus grand de tous qui sont nés d'une femme. Et il est bien dit, pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jean est le dernier de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de la révélation de la loi. Et Jean était un prophète. Un prophète. Et tout d'un coup, cette semaine, je relisais un texte de Jésus qui dit, on leur a envoyé des prophètes et ils les ont mis à mort. Et ça, c'était vraiment quelque chose de caractéristique depuis Jérémie, depuis tous les derniers prophètes. Combien sont morts? Combien sont morts? Par respect pour la parole de Dieu. Par respect pour la parole de Dieu. Et c'était le dernier des prophètes. Et c'est vrai qu'il allait mourir comme un prophète, sans jamais avoir négocié sur la parole de Dieu. Sans jamais avoir négocié sur la parole de Dieu. Je voudrais juste qu'on lise pour terminer. Ça s'affiche sur vos écrans à partir du PowerPoint, le Apocalypse 20, verset 4. Juste le. Voilà. Ensuite, je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux que l'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vis tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant la fin des 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de prise sur eux, ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Moi, je crois, je sais qu'il y a plusieurs théories sur le millénium, je ne veux pas lancer là-dedans. Moi, j'ai une vision très restrictive du millénium, très littérale. Je crois que le millénium, c'est 1000 ans de plus sur la Terre donné à ceux qui ont eu une existence écourtée pour le fait d'avoir été martyrs pour Christ. Je ne suis pas persuadé que je participerai au millénium. De toute manière, moi, j'ai le ciel qui m'attend. Après le millénium, de toute façon, pour tout le monde, il y aura le ciel. Mais je crois que pour ceux, il y a un bonus temps à ceux qui ont perdu leur vie sur la terre. À qui Dieu dit, pour ceux qui, parce que vous savez, dans l'Apocalypse, ceux qui n'ont pas pris l'image de la bête, ils ont été tous mis à mort. Pour ceux qui ont été décapités, pour ceux qui ont eu leur vie raccourcie. Pas plus tard que hier, hein, je regardais toutes les informations qu'il y a. On est des privilégiés, mais plusieurs maisons. Regardez, je lis la veille de Noël, le pasteur Ajoun, 24 ans, assassiné en Inde. Ehab Gattas, pour le Nouvel An, devant l'église Saint-Georges au Caire, il est mort parce qu'il a empêché des intégristes radicaux de brûler son église. Il y en a partout, quoi. Je ne vais pas tous les faire parce que ça ne va pas nous donner un peu le moral, mais bon, c'est important de le. C'est incroyable. À l'église de Mombasa, brûlée en octobre, enfin, il y a plein de cas. Je pense à Clarisse et à Sarah qui ont perdu leur mari, qui ont été assassinés au Kenya. Y a des amis qui perdent leur vie, qui perdent leur vie sur la terre. Parce que ils se sont dit, la parole de Dieu est non négociable. Je veux plaire à la parole de Dieu plutôt. Alors, du coup, moi, je me suis repensé avec tous nos rêves idiots à nous et nos bêtises. Oh, je veux bien un peu plus de liberté. Est-ce qu'on est à la hauteur de ces héros-là? Est-ce que si c'était à refaire, tu te lèverais pour Dieu? On va fermer les yeux ensemble. Je ne sais pas quels sont les projets, finalement. Peut-être la seule chose que tu te dis, ben, Seigneur, ma vie n'est pas facile, mais finalement, c'est quand même raisonnable. Hein. Tu ne m'as pas trop mis à l'épreuve. Je subis un peu de moquerie, un peu de frustration, mais merci Seigneur parce que pour l'instant quand même, je suis aujourd'hui dans une église dans laquelle je loue librement le Seigneur. Je peux afficher ma foi librement. Je peux dire Seigneur, tu es ma priorité. Tu es mon choix, ma décision. Tu es celui que je veux suivre dans les bons, les mauvais jours jusqu'à ce que la mort nous rapproche. On va revoir nos bien-aimés, mes amis, un jour là-haut. On va revoir nos bien-aimés. La chose qu'ils nous demanderont, c'est, t'as relevé le flambeau? Moi, je suis resté fidèle. Est-ce que toi, t'es resté fidèle? Des fois, Dieu reprend nos bien-aimés, on ne sait pas pourquoi. Hein. Mais Dieu a dit, Jean, je préfère te reprendre maintenant. Tu sois tout de suite dans la gloire. Parce que, voilà, tu as fait le travail sur la terre. Tu as proclamé, tu as été un messager de Dieu. Et de tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en est pas de plus grand que toi. Alléluia. Je voudrais demander, alors que les personnes désignées pour la Sainte Cène s'avancent, on va fermer nos yeux, on va garder nos cœurs en connexion avec Dieu. Je vous demande de ne pas chanter le chant si vous ne le vivez pas, mais pour tous ceux qui le veulent. Je voudrais qu'on prenne le chant qui dit « Entre tes mains, j'abandonne, Seigneur, tout ce que j'appelle mien. » Ça peut être des choses très concrètes, des tentations très concrètes qui te disent « Regarde, je te propose un peu de fun, un peu de liberté. » Non, entre tes mains, Seigneur, j'abandonne. J'abandonne ma liberté pour avoir ton intégrité. Alléluia, Jésus. Quand vous êtes prêts, quand vous assumez votre choix, le choix de votre baptême, comme Jean nous l'a montré. Vous vous levez à votre place et vous participez à la Sainte Cène en reconnaissant que Jésus-Christ est mort, mais qu'il est ressuscité. Parce que de la même façon qu'il est ressuscité, un jour tu seras ressuscité, tu vas dans la gloire avec Dieu, il nous attend là-haut, et aujourd'hui on se lève en l'honneur de celui qui a tout donné pour nous à la croix.
Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi.
Vous savez, le Saint-Esprit entend nos paroles, hein, et il est tout à fait d'accord de nous aider, parce que seul on ne peut pas tenir. Mais avant de chanter le dernier refrain qui dit « Prends mon corps et prends mon âme », parce que jusqu'à présent, tu ne risques pas grand-chose, il n'a pas encore pris ton corps, il ne t'a pas encore pris ton âme. Mais je pensais à cela, parce que je me suis dit, c'est quand même une prédication, elle est un peu dure, etc. Mais je me suis dit, on est en 2014. Mais peut-être que vous ou vos enfants, en 2060, pourront risquer une prison pour dire que c'est un péché que deux hommes couchent ensemble. Non, mais je suis très sérieux là. Les choses peuvent bouger. Peut-être qu'un jour, quand vous dites « prends mon corps », ben, il le prendra. Il y a peut-être un moment où parler de l'adultère, ça sera interdit dans une église. Il peut arriver un temps, on n'y est pas aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut vraiment louer Dieu plutôt que se plaindre. Mais il peut arriver un temps où ce cœur que chantaient nos anciens, on pourra le revivre à notre tour. Alors moi j'ai le devoir en tant que papa de dire à mes enfants, je ne vais pas vous faire un évangile à l'eau de rose dans lequel tu suis le Seigneur, tout est béni, tout est... Il y a peut-être un moment où au lycée, tu pourras être exclu pour une parole où tu auras simplement cité un verset. Donc lorsque l'on prie, lorsque l'on lit, lorsque l'on dit ces paroles-là, que l'on puisse être sincère. Je ne vous demande pas de les dire si vous ne les vivez pas. C'est juste ça que je veux faire. Je ne veux pas qu'on soit des religieux qui proclament des choses qu'on n'est pas capable de faire derrière. Personne ne vous force à chanter ces paroles, mais on va juste reprendre « Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. »
Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi.